C'est parler sur l'amour aujourd'hui, et donc en prenant plusieurs passages, parce que la Bible parle de manière extensive sur l'amour, et l'amour est omniprésent dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et donc j'aimerais juste parler de quelques caractéristiques de ce que Dieu entend par l'amour. Et le premier point que j'aimerais présenter, c'est que l'amour est une puissance. Ce n'est pas un ensemble de comportements. Ça se limite certainement pas à des choses que l'on fait ou que l'on ne fait pas. L'amour, c'est une puissance. Et je vais prendre un verset qui est assez frappant dans 2 Corinthiens chapitre 5. Pour commencer, on va voir à plusieurs endroits. Mais 2 Corinthiens chapitre 5. Il est question là de quelque chose qui montre qu'il s'agit d'une force, d'une puissance. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 14. 2 Corinthiens 5, 14. Oh, lisez chez vous 2 Corinthiens 5, ça vaut le coup, hein. C'est un des chapitres référence où il y a beaucoup de contenu, il y a des choses très riches dedans. Mais au verset 14, il est dit car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour de Dieu nous presse. Oh, je vais utiliser un sens un peu différent. L'amour de Dieu nous stresse. Il fait pression. Ça fait pression, n'est-ce pas, sur nous. Et la puissance de l'amour, l'amour, c'est une force, c'est une puissance qui fait pression sur nous, n'est-ce pas, et qui nous pousse à agir, qui pousse dans une direction, qui nous conduit à faire les choses. Et on peut avoir tout un tas, comme il a été dit, comme Janet a dit tout à l'heure, concernant les fruits de l'esprit, on peut avoir tout un tas de comportements. On peut avoir tout un tas de choses qu'on a appris à faire, qui sont des gestes d'amour, qui sont des signes d'amour, qui sont pas des signes de notre amour, mais qui sont des choses qu'on a appris comme étant bien à faire, qu'on a appris comme étant des signes d'amour. Et donc on les réalise parce qu'on est en train de, disons, faire des bonnes œuvres, parce qu'on est en train de faire quelque chose qui fait du bien à nous surtout. Et donc c'est ça qui motive notre comportement. Et là, il n'est pas question du même amour, il n'est pas question de ce genre de comportement. Il est question d'une puissance qui nous presse, n'est-ce pas? Et qui nous pousse à faire ce que Dieu veut que l'on fasse. Et si on regarde la vie de Jésus, qui était, rappelez-vous que Jean a dit que Dieu, enfin dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 3, il est dit Dieu est amour. Donc Jésus-Christ était l'amour. Il était l'amour incarné, il était l'amour qui était devenu chair sur la terre. Eh bien, l'amour de Christ ou la vie de Christ, ce n'était pas un ensemble de comportements qu'il faisait. C'est même surprenant d'ailleurs comment de voir comment il se comportait avec les gens. Je suis quelquefois surpris quand on voit que quand il rentrait dans Jéricho, il y avait Bartimée qui était là en train de crier, pitié, ayez pitié d'un pauvre aveugle, et lui, il passe devant Jésus. Il ne va pas donner un. Bien sûr, il n'avait pas d'argent, vous allez me dire, ça c'est vrai. Mais il s'est pas arrêté pour aller dire oh, écoutez, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a une pièce pour toi. Et nous, quelquefois, on a ce genre de situation où on pense qu'il faut faire un tas de choses, n'est-ce pas? Et quand on le fait, on se sent bien. On a monté un degré vers le ciel. Bon, il reste pas mal de degrés, hein. Mais on a fait quelque chose de bien, ça libère au niveau du cerveau, vous savez, une substance qui génère du bien-être. Et donc on se sent mieux et on dit c'est la bénédiction de Dieu qui me vient sur moi parce que j'ai fait quelque chose de bien. Mais c'est étrange de voir comment Jésus se comportait. Bien sûr, Jésus savait ce qu'il allait faire à Bartimée. Faut pas penser que Jésus est passé devant et qu'il a laissé Bartimée. Il savait ce qu'il allait faire après. Mais c'est pas exactement ce que nous on aurait fait probablement. Il y avait quelque chose, hein. C'est la vie de Jésus-Christ qui était la manifestation de l'amour parfait, qui était là, présent au milieu des hommes et qui touchait, qui pressait les gens. Il y avait une pression qui était faite sur les gens, qui les poussait à quelque chose, qui les poussait à la repentance, qui les poussait à vouloir écouter les paroles de Jésus. Les gens devaient être accrochés aux lèvres de Jésus, n'est-ce pas? Il attirait les foules, pas parce qu'il avait une campagne de publicité avant, mais parce qu'il avait une puissance, il y avait quelque chose dans ses paroles simples, n'est-ce pas? Quand il disait « un semeur est sorti pour semer », il y avait quelque chose qui touchait les gens, n'est-ce pas? Et qui parlait à leur cœur et qui faisait, qui répondait. C'est parce que l'amour de Christ les pressait. L'amour de Christ avait quelque chose qui agissait dans la vie, n'est-ce pas? Pas avec des gestes, pas avec des écrits, des petites lettres, des petites cartes gentilles qui fait du bien à la personne qui reçoit, mais aussi à la personne qui le fait. Ça lui fait du bien, n'est-ce pas, d'avoir fait ça en disant « j'ai manifesté de l'amour, j'ai été gentil, j'ai fait une bonne action ». Mais il y avait quelque chose de bien au-delà de tout cela, dans la personne de Jésus. C'est intéressant de voir comment il aimait les pharisiens, même quand il disait « hypocrite ». Il y avait de l'amour dedans. Bien sûr, on traduit très mal les choses. Quand on voit que Jésus disait « hypocrite », eh bien, on se dit « voilà, il était irrité ». Quand on voit Jésus dans le temple, en train de prendre un fouet, de chasser les vendeurs, quelqu'un m'a même utilisé ça pour justifier le fait qu'on pouvait s'irriter et se mettre en colère à certains moments. Ah ben, Jésus, il a fait ça dans le temple. Mais c'était rien à faire. On n'a pas le droit d'utiliser ça en disant « voilà, parce que voilà, ça autorise le fait de s'énerver, etc. » Parce qu'il y avait dans les gestes de Jésus de l'amour, un amour profond pour Dieu et un amour profond pour les hommes, au point qu'il ne pouvait pas supporter que les hommes se moquent de Dieu et que les hommes gâchent leur vie ou s'intéressent à l'argent plutôt qu'à Dieu. Il y avait de l'amour dans tout ce que Dieu faisait, dans tout ce que Jésus faisait sur la terre. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour pour Hérode, même lorsqu'il disait « ce renard ». Ce n'était pas par méchanceté, ce n'était pas par irritation, ce n'était pas pour dire « voilà, vous savez, moi je sais très bien ce que c'est au fond, c'est un renard ». C'était par amour, mais aussi par vérité que Jésus parlait. Et voilà cette puissance de l'amour qui est manifestée. Mais il y avait les gens qui étaient hermétiques à cet amour. Il y avait les pharisiens, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient, qui étaient fermés. C'est la même chose maintenant. Il y a tellement de gens qui sont hermétiques. Ils disent, on n'a pas besoin de l'amour de Christ. Ça ne nous touche pas. Moi, l'amour de Christ ne m'a rien fait. J'ai lu la Bible, ça ne m'a rien fait. J'ai assisté à des réunions, ça ne m'a pas parlé, ça ne m'a pas touché. Combien de gens sont comme ça? Est-ce que c'est extraordinaire? Est-ce que ça veut dire que la parole ne touche pas? Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ ne touche pas aujourd'hui? Parce que des gens disent « moi, je ne suis pas touché ». Il y a deux raisons pour lesquelles on peut ne pas être touché. Soit parce que ça ne parle pas, parce que ça ne touche pas, soit parce qu'on est fermé. Et on peut être hermétique, n'est-ce pas? Jésus a dit que les pharisiens étaient comme des tombeaux blanchis. Et la caractéristique du blanc, c'est que ça réfléchit la lumière. Les rayons lumineux viennent sur la surface blanche et sont rejetés, ils ne sont pas absorbés par la matière qui est peinte en blanc. Et c'est peut-être un des aspects qui frappait Jésus, c'est que la lumière tapait sur les pharisiens, mais en fait, il n'y avait rien qui pénétrait dans leur cœur. Il n'y avait rien qui absorbait cette lumière. Il n'y avait rien qui était touché à l'intérieur. À l'intérieur, c'était la mort. C'était les ténèbres. Et donc, beaucoup de gens étaient comme cela au temps de Jésus et beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. N'est-ce pas? On dit, ça ne les touche pas, ils ne sont pas touchés par la puissance de Dieu. Mais quand il y a quelque chose qui est ouvert, vous savez que même Dieu cherche quelquefois une brèche dans les cœurs, cherche un endroit qui est ouvert pour pouvoir pénétrer. Et il y a des hommes et des femmes qui ont quelque chose d'ouvert dans le cœur. Et la lumière de Dieu, l'amour de Dieu rentre immédiatement et ils écoutent la parole. Il y a quelque chose qu'ils reçoivent en eux, qui pénètrent en eux, qui changent leur façon de penser quand ils ont entendu quelque chose de la parole de Dieu, qui les poussent à rentrer chez eux, en rentrant chez eux, à réfléchir à ces choses, à pouvoir prier, à pouvoir avancer avec Dieu. Et là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fermé totalement. Et Dieu a quelquefois simplement besoin qu'il y ait une brèche quelque part. Quelquefois, la brèche, c'est à cause de choses que l'on a faites. C'est à cause de péchés qui ont été commis. Je me rappelle très bien quand un prédicateur venait à l'arc-en-ciel et prêchait l'évangile, il y avait un public d'hommes qui écoutaient. Quand on va dans les églises, quelquefois, on a les gens qui n'écoutent pas. Et c'est dans les églises qu'on a parfois le moins de gens qui écoutent la parole. Parce qu'ils n'ont pas besoin, ou ils pensent ne plus avoir. Ils se sont endurcis. Il y a quelque chose qui a dit « j'ai déjà tout reçu ce que je devais recevoir ». Mais on a besoin d'être pénétré par cette puissance, n'est-ce pas? L'apôtre Paul disait « je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». C'est une puissance, l'évangile. Et l'amour de Christ nous presse, nous fait un effet sur nous, elle agit à l'intérieur. Mais seulement, est-ce qu'on veut être ouvert ce matin? Est-ce que ce matin, on va dire « Seigneur, je veux, en rentrant chez moi et déjà ici dans le culte, je veux dire « Seigneur, je veux ouvrir mon cœur à ton amour pour que cet amour que tu as à me donner puisse rentrer dans ma vie ». Ou est-ce qu'on est fermé à son amour? Bien sûr, on va dire peut-être qu'on n'est pas fermé, mais il y a tellement de choses qui ferme, il y a tellement d'aspects qu'on va peut-être voir ce matin qui peuvent nous fermer à l'amour de Christ. Notamment la culture des choses du passé, la culture des blessures du passé. Parce que si l'amour de Christ vient dans nos vies, on sera comblé d'amour. On sera rempli d'amour. Et il y a des gens qui ne veulent surtout pas ça. Ils ne veulent surtout pas être remplis d'amour parce que s'ils ont remplis d'amour, ils n'ont plus d'excuses. Ils ne pourront plus dire « j'ai jamais été vraiment aimé, j'ai jamais vraiment été reconnu, on a été injuste à mon égard ». Ils ne pourront plus le dire parce que l'amour de Christ aura rempli leur cœur. Et parce qu'ils ont des choses dans le passé auxquelles ils tiennent encore et qui donnent des justificatifs. « Moi j'ai ça qui m'est arrivé ». Ils devront abandonner cela, ils devront laisser tomber ça. Alors ça fait un mur. N'est-ce pas? Et l'amour de Christ vient sur eux et ça repart immédiatement. Comme disait mon père, c'est comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous versez de l'eau sur les plumes d'un canard, il n'y a rien qui pénètre, ça part, ça disparaît, ça coule. Voilà, il disait ça sur les gens dans l'église, que quelquefois quand on prêche la parole, c'est comme si on verse de l'eau sur les plumes d'un canard. Bon, voilà, mais on est appelé à être des moutons, pas des canards. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut lâcher cette muraille, ces choses. Vous savez vous-même d'ailleurs ce qui empêche l'amour de Christ. Mais est-ce que seulement on a été touché par l'amour de Christ? Est-ce qu'on a été bouleversé? Est-ce que l'amour de Christ nous a pressé à tel point qu'on a cédé? Le problème, c'est qu'on ne cède pas. On ne veut pas céder, on veut résister. On lit que le peuple d'Israël était un peuple au cou raide. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un peuple au cou raide? Ça veut dire un peuple qui résistait tout le temps. Un peuple qui dit « Non, non, c'est trop dur », c'est-à-dire qui négocie avec Dieu au lieu de se laisser pénétrer par l'amour de Dieu, cette pression de Dieu qui agit sur nos vies et qui finalement rentre dans nos vies. Qui, si on cède là, ce qui fait une muraille. Il y a une personne certainement qui a connu ça très tôt dans l'histoire de Jésus, c'est Marie de Béthanie. Elle a été touchée par l'amour de Christ. On ne sait pas comment exactement. On ne sait pas exactement comment ça a commencé, mais on sait qu'elle a été touchée par l'amour de Christ. Et vous lisez ça dans Jean chapitre 12, un merveilleux chapitre. Lisez l'évangile de Jean, un merveilleux évangile. Combien de gens se sont convertis en lisant l'évangile de Jean? C'était des gens qui avaient une faille dans leur vie. Et là, en lisant la parole, l'amour de Christ, la parole de Dieu a pénétré dans leur vie et elle a rempli leur vie. Et ici, dans Jean chapitre 12, il est question au début du chapitre du récit où Marie est tellement touchée par la grâce de Christ, par l'amour de Christ, par cette fascination qu'elle avait de Jésus-Christ. Elle était fascinée, elle avait vu bien sûr, son frère ressuscité. Elle avait vu, mais même avant ça, elle aimait Jésus. et elle a pris ce qu'aucun disciple n'avait fait. Ce n'était pas venu dans la tête des disciples, certainement pas dans la tête de Judas Iscariote, qui l'a condamné, qui lui a dit, il devait penser, moi je suis disciple, moi je sais très bien ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, j'ai été choisi par Jésus. Combien de gens ici ont dit, ont témoigné devant un micro qu'ils ont été choisis par Jésus. Mais vous savez que Judas Iscariote a été choisi par Jésus. Il n'a pas dit, est-ce que je peux devenir ton disciple? Je vais te trahir un jour, mais je ne te le dis pas. Mais est-ce que... Non, c'est Jésus qui l'a choisi. Et Jésus lui a confié la trésorerie, sachant qu'il était voleur. Mais il a été choisi par Jésus, mais il n'avait pas reçu l'amour de Christ. Ce que Jésus voulait montrer à ses disciples, c'est cet amour. Et il semblerait que ses disciples ne l'aient pas reçu. On va voir ça, je vais l'évoquer tout de suite. Simon-Pierre, lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, il a pris l'épée tout de suite, n'est-ce pas? Je vais te défendre, Jésus. T'as rien à craindre avec moi, je suis là, j'ai toujours été avec toi. Heureusement d'ailleurs que j'étais là. Dans bien des situations, j'ai pu repousser les enfants quand ils venaient te casser les pieds. J'ai pu faire la loi un petit peu. J'ai pu dire aux gens, arrêtez de toucher Jésus. Ou j'ai pu te raisonner aussi un jour quand quelqu'un t'a touché en disant, mais écoute, regarde Jésus, la foule qui est autour de toi et tu dis qui m'a touché. Heureusement que je suis là, Jésus, pour toi. Et maintenant, ne crains rien, j'ai mon épée. Et je vais agir. Il n'avait pas compris l'amour que Jésus avait pour Malchus, cet homme qui a perdu l'oreille, et vous savez que s'il a perdu l'oreille, c'est parce que Pierre visait mal. Il visait mal, parce que c'est certainement pas l'oreille qu'il avait visée, c'était certainement la tête. Mais il visait mal sur le plan spirituel, il avait mal visé, il avait mal compris ce que c'était la volonté de Dieu. Il n'avait pas été pénétré par l'amour de Christ. Et vous savez que je pense que la première fois où l'amour de Christ a commencé à pénétrer son cœur, c'est quand Jésus l'a regardé, quand il avait trahi. Parce que le fait d'avoir trahi Jésus, ça a créé une brèche, ça a créé une division dans sa vie, ça a créé une dissociation. Il a commencé à voir que lui qui était le fidèle disciple de Jésus, lui qui était si fidèle, sur qui on pouvait compter, il avait même failli dans quelque chose d'élémentaire. Et ça a créé une brèche, et là l'amour de Christ a pu commencer à rentrer dans son cœur. Et Jésus l'a simplement regardé de loin après qu'il ait trahi son maître et il a commencé à pleurer amèrement. Je pense que l'amour de Christ, quand il rentre dans la vie, ça fait pleurer. Est-ce que vous avez pleuré? Est-ce que vous avez pleuré parce que Jésus a fait dans votre vie? Sinon, c'est probablement que jamais, jamais l'amour de Christ a pénétré dans votre cœur. Parce que l'amour de Christ crée quelque chose en nous qui fait qu'on est touché, qu'on est amené à pleurer amèrement sur notre état, sur ce que l'on est, sur notre misère, et qui nous fait dire à Jésus qu'on l'aime. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire « Seigneur, je t'aime ». Posez-vous simplement cette question. Est-ce que vous pourriez dire dans une prière dans l'église « Jésus, je t'aime ». Si vous pouvez le dire à pleine voix, il y a quelque chose de libéré en vous. Il y a des gens qui ne peuvent pas le dire. On peut dire, Seigneur, nous t'aimons. C'est facile de dire, nous t'aimons. Jésus, je t'aime. Et c'est une puissance qui ne peut s'exprimer que si on a eu l'amour de Christ qui est rentré dans la vie. Et vous savez que lorsque Jésus a regardé Simon-Pierre et que Simon-Pierre a pleuré, eh bien, cette brèche s'est ouverte, le voile dans son cœur s'est déchiré de haut en bas. Et l'amour de Christ a pu commencer à rentrer. Et je pense que Jésus ne lui avait jamais demandé avant, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Parce qu'il savait que probablement, enfin je ne sais pas, je ne veux pas du tout inférer sur ce que Jésus pensait, mais Jésus savait que Pierre aurait dit oui et que ce n'était pas tout à fait vrai. Parce que ce que Jésus voulait, c'est un amour profond. Et il lui a posé cette question après la trahison, parce qu'il savait que là, Pierre pouvait dire oui. Oui, Seigneur, je commence à t'aimer. Maintenant, je peux commencer à dire que je t'aime. Tu le sais, Seigneur. Mais vous savez qu'il a été transformé à la Pentecôte. Il a fallu attendre longtemps, il a fallu attendre la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Christ. Et c'est à la Pentecôte que Pierre a reçu le Saint-Esprit d'une manière puissante, au point qu'il a dit, quand il a écrit son épître, qu'il a dit des choses qui étaient comme Jésus, n'est-ce pas ? Il a parlé de Jésus, mais il a parlé aussi comme Jésus parlait. Il a dit « Soyez prêts à vous défendre devant quiconque demande raison de votre foi. » Je paraphrase, bien sûr, mais il a dit de répondre avec douceur. Ce n'est pas ce qu'il avait fait à Malchus. Ce n'est pas ce qu'il avait fait quand on est venu pour chercher Jésus. Mais c'est parce qu'à l'époque, il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris, il n'avait pas eu l'amour de Christ qui avait pénétré son cœur réellement. Bien sûr, il avait été touché en surface. Bien sûr, il y avait quelque chose qui avait fait qu'il avait voulu suivre Jésus. Bien sûr, il y a quelque chose qui a interpellé sa conscience, qui a interpellé sa vie, qui a fait qu'il a abandonné la pêche pour suivre Jésus. Il y avait quelque chose déjà qui avait touché quelque chose en lui, mais l'amour de Dieu a commencé seulement à rentrer dans sa vie, je pense, quand il a péché contre Dieu. Et quelquefois Dieu permet que les hommes et les femmes tombent très bas. Parce qu'en tombant très très bas, eh bien, c'est là où il y a une faille dans leur muraille bien construite. Et on doit être protégé de ces murailles bien construites. Parce que c'est ça qui fait, comme a dit Jeannette tout à l'heure, c'est ça qui fait que c'est un obstacle. On a besoin que l'Esprit de Dieu puisse détruire la muraille pour la reconstruire. On a besoin que Dieu puisse faire pénétrer en nous sa lumière, comme il a été dit ce matin dans l'introduction, pour que sa lumière puisse se manifester et ne pas avoir notre éducation, notre culture. Vous savez, nos enfants sont, si on lit les sermons sur la montagne, et Alex nous en a cité la semaine dernière, eh bien, on comprend que nos enfants sont des criminels, et nous sommes bien sûr, mais nos enfants sont des criminels non pratiquants, et nous sommes des criminels non pratiquants. Il y a des criminels pratiquants dans le monde, ils sont en prison si on arrive à les attraper, mais il y a des criminels non pratiquants. Et quelle est la différence entre un assassin ? Quelle est la différence entre un violeur et quelqu'un qui a des bons comportements, soi-disant, dans la société ? C'est quelqu'un qui est pratiquant et l'autre qui ne l'est pas. C'est juste qu'on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Certains ont eu le privilège d'avoir des parents qui ont dit « Tu fais pas ça. Voler, c'est grave. Tuer, c'est grave. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. » Les autres n'ont pas eu les parents comme ça. Ils ont eu les parents qui ont mis l'enfant à la porte, n'est-ce pas, parce qu'il dérangeait du matin au soir. L'enfant est descendu en jouer en bas des blocs, d'accord, et il a appris son éducation par les plus grands. Et les plus grands avaient appris leur éducation par des plus grands aussi. Et on leur enseigne à faire des choses qui sont du mal. Et donc ceux-là finissent en prison, les autres finissent avec un bon emploi, une belle maison, une bonne famille et une belle vie. Mais il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. Si vous lisez le serment sur la montagne, Jésus appelle assassin criminel quelqu'un qui a eu de la haine ou qui a dit idiot ou imbécile à quelqu'un. C'est ça la justice de Dieu. Vous dites, Seigneur, fais-moi justice. C'est ça la justice de Dieu. C'est qui doit nous montrer qu'on est criminel. C'est ça qui doit montrer. C'est ça qui fait que les vrais criminels, ils ont une grosse faille parce qu'ils savent qu'ils sont criminels. Et la lumière de Dieu peut rentrer. Gérard Payon, qui va dans les prisons pour prêcher l'évangile, il voit des convertis. Il voit des conversions. On prêche quelquefois l'évangile pendant 50 ans. Dans des églises et on ne voit pas de conversion. On voit des gens qui sont convaincus dimanche après dimanche qui n'ont pas besoin de Christ, qui n'ont pas besoin que Dieu fasse un changement. Et ça, c'est parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir de faille. Qu'est-ce que je dois changer si tout va bien dans ma vie ? Mais on a besoin de voir notre misère. On a besoin de se repentir. On a besoin de connaître la lumière de Dieu qui rentre dans le cœur. Et il semblait que les disciples qui ont accompagné Jésus pendant 3 ans avaient très peu de cette expérience-là. Mais il y en avait une qui avait cette expérience. C'est Marie de Béthanie. Au moins une, il y en a d'autres, bien sûr. Probablement à cause d'une vie dissolue. Probablement parce qu'elle avait beaucoup péché. Vous savez, Il est écrit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et au moins, ceux qui ont beaucoup péché, ils savent de quoi ils sont pardonnés. Quand Jésus a dit à Marie de Béthanie qu'elle était pardonnée, un jour, il a dû lui dire cela. Elle savait ce que ça voulait dire. Elle savait qu'elle avait beaucoup besoin de pardon, qu'elle avait beaucoup besoin d'être lavée. Et parce qu'elle avait besoin de ça, elle a reçu beaucoup de la grâce de Dieu. Et cette grâce l'a poussée un jour, comme ça, sans qu'on lui ait dit, ce n'était pas les disciples qui lui avaient dit. Les disciples auraient dit non, 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 non. Non, non, il faut être digne. Si tu veux louer le Seigneur, tu dois dire, Maître, je te loue. Amen. Ah non, Amen, on l'a ajouté depuis. Mais Maître, je te loue. Et voilà, quelque chose de très correct. Mais elle a dans son cœur, il y a quelque chose qui est venu. Elle a dit, si j'achetais un parfum, si je prenais tout l'argent que j'ai et j'achetais un parfum d'un grand prix, je suis sûr que c'est ça que Jésus veut. Tout le monde lui aurait dit, mais moi en premier, je lui aurais dit, mais non, c'est du gaspillage. Tu sais, Jésus, il est touché par ta parole. Si tu lui dis, Jésus, je t'aime, ça suffira. T'as pas besoin de... Et Jésus, il met pas de parfum. T'as pas besoin de lui acheter un parfum comme ça. Elle savait ce qu'il fallait faire. Elle était prophétesse. Elle était en train d'accomplir une prophétie. C'est Jésus qui lui a dit. Mais c'est le Saint-Esprit qui était en elle parce qu'elle avait été touchée par la grâce de Dieu, parce qu'elle avait touché, elle avait été touchée par l'amour de Christ. Elle a commencé à agir de manière folle. Et les disciples étaient sages. Et le plus sage, apparemment, c'était Judas Iscariot qui dit ce que disent énormément de chrétiens. Ils disent, on ne doit pas gaspiller ça. Faudrait, l'argent, doit, on ne doit pas le gaspiller. Il ne faut, faut pas utiliser ça pour acheter des choses qui pourraient être une bénédiction. Il faut les mettre de côté au cas où on a besoin. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui disait, je vais faire la folie pour Christ. Je vais donner mon âme. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il y a une relation de causalité immédiate entre aimer et donner. C'est une causalité nécessaire. Si j'aime, je donne. On n'a pas besoin de me dire, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui aime son conjoint qu'il faut que tu lui donnes des choses. Il y a quelque chose comme ça. Les enfants, quand ils sont tout petits, ils viennent donner quelque chose à leurs parents. C'est pas grand-chose, souvent. Souvent, c'est plutôt embêtant qu'utile. Mais on n'a pas le droit de mépriser ça. Parce qu'ils ont tellement aimé leurs parents qu'ils ont donné. C'est une loi de causalité. C'est une loi, vous pouvez pas... Si vous lâchez un objet, l'objet tombe. C'est la loi de la gravitation. Si vous aimez, vous donnez. C'est la loi de l'amour. Il n'y a pas de possibilité autrement. Ne luttez pas contre les lois. Il y a quelque chose qui fait qu'on veut donner. Et donc, elle est allée prendre, je ne sais pas si elle l'avait chez elle en réserve depuis longtemps, ou bien si elle est allée l'acheter. Mais elle, en tout cas, elle a fait cette folie. Elle a répandu sous les pieds de Jésus. Chapitre 12 était la prophétie accomplie par quelqu'un qui ne savait rien de ce qui allait se faire dans le chapitre 13. Elle ne savait rien de ce qui allait se faire dans le chapitre 18, dans le chapitre 19 de Jean. Mais elle était en train d'accomplir un acte sous la condamnation de Judas qui disait « il faut donner aux pauvres ». Et on dit quelquefois que l'État dépense des milliards pour des trucs qui servent à rien. Ce qui n'est pas faux. C'est pas faux. Mais on condamne, on dit alors qu'il y a tant de pauvres sur la terre, il y a tant de misère sur la terre. Mais vous savez que quand l'État dépense 60 millions pour rien, ça correspond, si on amène à l'échelle, aux fois où vous avez dépensé 1 euro pour rien. Parce qu'on a à peu près 60 millions en France. Donc si ça vous arrive d'acheter un truc à 1 euro qui ne sert pas à grand-chose, qui n'est pas utile, eh bien l'État a le droit de dépenser 60 millions pour rien. Il faut voir les choses, il ne faut pas voir le problème chez les autres. Il faut voir les situations de notre vie. Dieu nous demande à rendre des comptes. On ne va pas devoir rendre de compte pour l'État. On va devoir rendre compte pour notre situation. Et le problème, c'est qu'on peut voir ce que l'État fait, mais on ne voit pas notre misère. Combien de choses on a gaspillées alors qu'on aurait pu trouver la volonté de Dieu, accomplir la volonté de Dieu. Et donc, elle a répandu ce parfum sur les pieds de Jésus. Dans le chapitre 13, Jésus met le comble à son amour. C'est pas qu'il a dit « je vais essayer d'imiter, c'est pas mal ce que Marie de Béthanie a fait, je vais faire la même chose à mes disciples. » Mais à ses disciples, dans le chapitre de 13 de Jean, il a lavé les pieds des disciples. Oh, bien sûr, c'est devenu une pratique dans certains milieux, de moins en moins, à cause de l'évolution de la culture, mais dans certains milieux, on a fait cette pratique. Il y a des gens qui s'opposeraient à ça, n'est-ce pas? Attention, parce que Simon-Pierre s'est opposé. Simon-Pierre a dit non, pas ça, Seigneur. Ma dignité. J'ai quand même de l'éducation. J'ai quand même, on ne m'a jamais fait ça, moi. Même ma femme, elle ne me fait pas ça. Moi, je me lave mes pieds tout seul. Jésus, vous devez le faire. Et il l'a fait. Et la différence, c'est que c'était quelque chose de spontané. C'était quelque chose qui était une manifestation d'amour. C'était une tâche ingrate. Quand l'amour de Christ vous touche, vous êtes prêt à faire les tâches les plus ingrates. Bien sûr, vous pouvez avoir été élevé à faire les tâches les plus ingrates. Il y a des cultures même qui... Toute la culture fait que les personnes se considèrent comme étant faites, étant créées pour faire des tâches ingrates. Bon, ceux-là auront moins de mal avec ce que le Seigneur demande, mais ce n'est pas la culture qui doit commander, c'est l'amour de Christ qui doit faire en sorte qu'on est prêt à faire les tâches les plus viles par amour. Et c'est ce que Jésus voulait faire. Il a dit, et vous faites de même. Je ne pense pas qu'il voulait nécessairement dire, lavez-vous les pieds. Il l'a dit, donc les disciples ont dû le faire, je pense, par obéissance. Mais je crois que ce qu'il voulait, c'est comprenez que l'amour, ça se manifeste d'une manière quelquefois qui est bizarre, d'une manière qui est inhabituelle. Laissez tomber votre culture, laissez tomber votre bonne éducation, vos bonnes manières, et mettez-vous à genoux devant une personne et servez-la. C'est ce que Marie de Béthanie avait déjà compris. Je ne sais pas ce qu'elle a reçu, si elle a reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, certainement, mais elle avait déjà reçu quelque chose que les disciples ne semblaient pas avoir reçu. Le premier donc point, c'est que l'amour est une puissance, quelque chose d'irrésistible, quelque chose qui nous presse à agir, qui nous pousse à agir dans une direction, qui fait qu'on va faire ces choses. Et c'est ça que Marie a fait, elle a fait ça alors que la raison la poussait ailleurs. Mais le deuxième point, c'est que l'amour nous rend serviteurs. Elle nous rend serviteurs. Dans Galates, au chapitre 5, là aussi c'est le passage, le chapitre extraordinaire que vous connaissez bien, qu'il faut lire bien sûr entièrement, et qui contient le fruit de l'esprit. Eh bien, il dit au Galates 5, verset 13, « Par la charité, rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Soyez serviteurs les uns des autres. Comment puis-je vous servir? Alors, il y a un danger dans cette phrase-là. Comment puis-je vous servir? C'est que on peut apprendre que c'est bien à le dire. Et puis, se dire intérieurement, pourvu qu'ils me disent qu'il n'y a rien à faire. Mais le service, là, ce n'est pas ça. C'est rendez-vous serviteur dans le sens que je veux vraiment faire ce qui peut aider les autres. Je veux d'abord, bien sûr, servir Dieu, mais faire ce que servir aussi les autres. Pourquoi ça? Parce qu'il y a quelque chose dans l'amour de Christ qui nous presse, qui nous a, quand l'amour de Christ a pénétré dans nos cœurs, qui fait que le regard se détourne de nous-mêmes. Et quand c'est pour ça que Dieu dit qu'il faut aimer Dieu, c'est le premier commandement, et le deuxième, c'est aimer son prochain. Et quand on aime, ça, quand on aime quelqu'un, c'est à l'exclusion des autres. C'est à l'exclusion des autres. C'est ça le mariage. L'amour dans le mariage, c'est pour le conjoint à l'exclusion des autres. C'est ça l'amour. Donc, on va faire le point. Dieu dit qu'il faut aimer Dieu et son prochain. Comme l'amour est exclusif, ça veut dire que tout le reste, il ne faut pas l'aimer. Et il reste une personne, c'est moi. Puisque je ne suis pas mon prochain et je ne suis pas Dieu. Et voilà l'œuvre de l'amour dans une vie. C'est que la personne ne regarde plus à elle-même. La personne ne fait plus cas de sa personne. L'apôtre Paul disait « Je ne fais pas cas de moi-même. » Je paraphrase là aussi. Mais c'est l'expérience naturelle. Je ne fais pas cas de ma personne. Parce qu'on aime. Et quand on aime Dieu, on veut le servir. La nature des prières personnelles, pas celles d'église, la prière des cœurs trahit si on est serviteur ou maître de Dieu. Bien sûr, on ne peut jamais être maître de Dieu, mais on essaye. Si vous dites « Seigneur, fais ceci pour moi, s'il te plaît », vous êtes assis sur un trône et vous avez un serviteur que vous appelez Dieu. C'est du blasphème que vous lui demandez de faire pour vous un service. Le cœur qui sert Dieu, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je suis là, tu connais mes limites. » Dieu ne demande pas de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Il nous donne la grâce de le faire si on sait quelque chose qu'il nous demande et qu'on ne peut pas faire de manière naturelle, il nous donne la grâce. Mais il veut qu'on soit à son service, qu'on soit prêt. Et qu'on soit comme le serviteur, l'esclave, qui disait lorsqu'il pouvait être libéré, « Je ne veux pas être libéré, j'aime mon maître. » Et donc on mettait un poinçon sur son oreille, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, il restait attaché à son maître. « Je veux le servir, je veux faire partie de sa maison. » Mais voilà le cœur de quelqu'un qui est touché par Christ, il veut servir. Il veut servir Dieu, il veut servir les autres, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il aime son prochain. Le dernier point, je vais aller vite, c'est qu'il faut chercher l'amour. J'ai dit que c'était une puissance qui s'exerçait. Donc on devait agir par amour, pas par éducation, pas en pensant bien faire. Vous savez que par l'éducation, on peut produire tous les comportements qu'on veut. Tous les comportements. On peut modifier les comportements de n'importe quel criminel pour le faire devenir quelqu'un de très bien, qui se comporte très bien. Il suffit de passer 10 heures par jour à côté de cette personne et de corriger ses comportements en trouvant ce qui marche très bien. Ça se fait avec les autistes, les comportements totalement déviants des autistes, par exemple se mordre, crier, être tordu dans tous les sens, sont corrigés 10 heures par jour, 365 jours par an, et vous avez des enfants qui jouent après, qui ne se mordent plus, qui ne crient pas, on ne peut même pas voir en quoi il diffère des autres. C'est le conditionnement qui fait ça. Pendant des années, on corrige tout comportement, on peut corriger tout comportement du corps à partir du moment où il n'y a pas un handicap physique qui empêche de produire le comportement. On peut corriger le comportement de n'importe quel criminel. Il faut passer du temps. Mais on peut le faire. On a l'explication, on a les lois qui gèrent les comportements. Mais l'autiste qui est totalement perçu comme un autre enfant, donc aux États-Unis, quand ça a été celui qui a initié ça, il a montré sur un film un enfant autiste qui était tout à fait tordu et qui criait, qui ne pouvait pas parler bien sûr, qui se mordait, qui hurlait, qui était déformé comme tout. Et ensuite on le voit à la fin du traitement, donc 3-4 ans après, avec 365 jours de conditionnement par an à 10 heures par jour, tous les jours. Et voilà, l'enfant joue et rit avec les autres. On lui dit, voilà, reconnaissez l'enfant. Impossible. Mais l'enfant est autiste. Son comportement a été corrigé, mais il est toujours autiste. Le problème n'est pas résolu, n'est-ce pas? Et c'est ça la science, comme disait Sophie. C'est ça la science. La science va corriger la manifestation des choses. Moi, je suis migraineux depuis longtemps. Et c'est merveilleux parce que ce matin, je me suis réveillé avec tous les symptômes d'une migraine. Mais j'ai pris des antidouleurs. On reconnaît, n'est-ce pas, les symptômes, on prend les antidouleurs et là, j'ai pas mal à la tête du tout. Donc, j'ai l'impression que je ne suis pas migraineux. Mais je suis migraineux. On corrige la manifestation. On a des traitements puissants pour empêcher que se manifeste. Mais on n'a pas corrigé ce qui est de l'ordre de la maladie. Pourquoi la maladie est venue? Pourquoi les troubles sont là? Pourquoi il y a eu ça à l'origine? Et l'homme peut corriger beaucoup de choses. Il peut être quelqu'un d'aimant. Il peut être quelqu'un qui se préoccupe des pauvres. Quelqu'un qui se préoccupe des gens dans l'église, qui fait tout un tas de choses, mais qui n'a pas l'amour. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit « Si je vendais tous mes biens pour les pauvres, oh non, si on fait ça, on a l'amour. Hein. » Eh bien, il dit « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Ça veut dire que pour lui, c'était clair qu'on pouvait faire tous ces comportements-là et ne pas avoir l'amour néanmoins. Ce n'est pas parce que vous avez des bons comportements que vous avez l'amour. L'amour de Christ, ça vous pousse à lui dire « je t'aime », ça vous pousse à vous mettre à genoux à ses pieds, d'embrasser ses pieds, de mettre du parfum, de dire « je t'aime Jésus ». Ça vous pousse à ça, ça vous pousse à donner votre vie, à dire « Seigneur, je veux te servir, je veux être à toi, je veux, quoi qu'il arrive, me donner à toi ». C'est ça qui est l'amour et le reste, ça va venir. Mais il faut connaître cette expérience d'abord. Et ensuite, il faut rechercher l'amour. Dans 1 Timothée, vous n'êtes pas obligé de tourner vers 1 Timothée 6, 11. Mais là, Paul s'adresse à un homme de Dieu. Il ne s'adresse pas à une église. Il s'adresse à un homme de Dieu dont il savait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il lui a dit « Fuis ces choses ». Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire les richesses, la recherche du bien-être matériel, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, donc ou l'amour, la patience, la douceur. Le fruit de l'esprit doit être recherché. Pourquoi? Parce que c'est comme une flamme, et une flamme s'éteint, et il faut l'attiser. Il faut vous exciter à la charité, il faut vous exciter à vous-même, à aimer. Il faut chercher à voir comment je peux aimer Dieu, comment je peux aimer mon prochain. Ça doit être une préoccupation, ça doit être quelque chose que l'on attise. Vous devez regarder le constituant des fruits de l'esprit régulièrement et dire « Seigneur, est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime tous mes frères et sœurs ?» Il n'y a pas l'ombre d'un obstacle. Aimer, ça veut dire donner sa vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il a donné son Fils. Il a donné sa vie. Dans 1 Jean 3,16, donnez vous aussi, donnez votre vie pour les frères. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour Dieu, mais pour les frères et sœurs aussi? Est-ce que s'il y a un frère ou une sœur qui est arrêté, on va commencer à dire « Ah oui, mais exagérez un peu avec le témoignage. C'était quand même interdit, hein. C'est pas sage. C'est pas prudent. » Ou est-ce qu'on va dire « Seigneur, pourquoi c'était ce frère? Pourquoi c'était sa sœur? Pourquoi c'était pas moi? J'aurais préféré que ce soit moi. J'aurais voulu être à sa place. » Donc, on doit rechercher cet amour parce que ça s'éteint. Il y a des gens dans les couples, comme je l'ai déjà dit, qui disent « je ne trouve plus l'amour pour le conjoint ». Après un certain temps, je ne trouve plus l'amour. Mais il faut le chercher. Est-ce que vous le cherchez? C'est ça la question. Est-ce que vous avez recherché cet amour? Est-ce que vous avez dit « voilà, il n'est pas question que je le perde. Je vais donc le chercher. Je vais trouver et vous le trouvez. » Parce que ceux qui cherchent Dieu, et Dieu est amour, le trouvent. On ne peut pas laisser ces choses de côté, les négliger. Donc il faut rechercher cet amour. On l'a reçu de Dieu une fois, une première fois, on le reçoit de Dieu régulièrement, mais il veut qu'on cherche à le manifester. Il faut qu'on l'apprenne. Vous savez, c'est comme nager, par exemple, ou marcher. Eh bien, à partir du moment où vous avez deux jambes, vous pouvez marcher quand vous êtes petit. Vous pouvez apprendre à marcher. Et une fois que vous marchez, il faut de l'entraînement. Sinon, vous allez perdre. Eh bien, c'est la même chose. C'est aussi simple que ça. Et je pense que dans la nature, on a les exemples aussi simples. Une fois que vous avez reçu l'amour, vous devez l'exercer et le pratiquer. Sinon, vous allez le perdre. Et voilà ce qui se passe. C'est la même chose avec une langue. Si vous ne pratiquez pas la langue, vous allez la perdre. Il va rester des choses, mais vous allez perdre la pratique. Et on doit pratiquer ces choses. Et Dieu nous incite à ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de jambes ne peut pas marcher. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour de Dieu ne peut pas manifester l'amour. Ce n'est pas la peine qu'il pratique. Ah, il va peut-être le pratiquer, mais ce ne sera pas l'amour. L'amour de Christ doit d'abord être reçu. On doit avoir la capacité de marcher avant de pouvoir apprendre à marcher et marcher. Que Dieu nous aide à connaître la puissance de l'amour de Dieu qui nous presse, qui nous pousse, qui fait pression sur nous, qui fait qu'on fait même des actes bizarres. Vous savez, les jeunes, ils ne se gênent pas. Hein. Quand ils aiment quelqu'un, ils ne se gênent pas pour le faire en public, des actes bizarres à l'égard de leur bien-aimé, n'est-ce pas? Parce que ils aiment. Donc, ils font ces choses sans réfléchir. Est-ce que, voilà, eh bien, quand on aime le Seigneur, il doit y avoir cet amour qui nous pousse à faire des choses bizarres, comme Marie de Béthanie. C'est vraiment bizarre ce qu'elle a fait. Est-ce qu'on est prêt à être serviteur parce que l'amour de Dieu est venu dans nos vies, pas parce qu'on pense que c'est bien d'être serviteur et servant? Ou est-ce qu'on aspire à une position élevée dans l'Église? Ou est-ce qu'on est prêt à se mettre à faire les tâches les plus viles? Et est-ce qu'on cherche l'amour? Est-ce qu'on entretient cet amour? Est-ce qu'on pratique l'amour? Est-ce que l'amour est pratiqué dans notre Église? Est-ce que l'amour est pratiqué dans notre vie? C'est une question fondamentale. Que Dieu nous aide. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir parce que ta parole est très claire, Seigneur, et tu es l'amour. Tu es l'accomplissement de la loi. Et tu as dit, Seigneur, que l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Donc l'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le Saint-Esprit que l'on reçoit. Et Seigneur, nous voulons, comme il a été dit en introduction, transparaître cet amour. Nous voulons que, Seigneur, cette flamme soit toujours ranimée. Si nous négligeons une lampe à huile, la lampe s'éteindra. Et Seigneur, tu veux que nous puissions ranimer, que nous puissions veiller à ce que toujours le fruit de l'Esprit soit pratiqué dans nos vies, soit porté dans nos vies. Et comme des habiles jardiniers, nous puissions, Seigneur, travailler pour que l'arbre puisse porter le plus de fruits possible. Amen.